32 14 14 pour joindre Pierre-Louis Basse.
Et vous êtes d'ores et déjà très nombreux à vouloir intervenir avec nous ce soir dans ce dialogue. Je salue Charles Becbédé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes PDG de Poéo, qui est le premier opérateur privé d'énergie,
oui.
Électricité et gaz et indépendant. Merci d'être avec nous. Et vice-président de Croissance Plus, membre du conseil exécutif du MEDEF. Je remercie également Michel Husson. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Husson, vous êtes économiste et chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale. Nous sommes au téléphone, je pense, avec François Dubé. Bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Bordeaux et sociologue et à l'École des hautes études en sciences sociales. Tout comme François Goudu, qui est avec nous également. Bonsoir. Il sera avec nous dans 5-10 minutes. Alors, bien sûr, nous répondons à toutes les questions qui se posent et qui vraiment c'est un débat tout à fait extraordinaire depuis quelques semaines dans ce pays, car nous avons énormément d'appels d'auditeurs autour de ce CPE. Peut-être partons du CPE, les amis, et puis élargissons le compas. Précarité ou déprécarité?
Bon, Becbédé, moi, je veux bien commencer. Je crois qu'il y a une formidable hypocrisie. On est dans un pays où à chaque génération donc d'enfants qui naissent et qui deviennent après des étudiants, environ 700 000, 750 000 personnes, on en a un certain nombre qui font des études qui vont être considérées par les entreprises comme très valorisantes et qui vont se battre pour avoir ces personnes. Donc environ 50 000 sur ces 750 000. Tous les diplômés de grandes écoles, les grandes universités, les IUT aussi qui sont très intéressantes qui forment vraiment bien à l'entreprise. Puis ensuite, malheureusement, on a 100 à 150 000 personnes qui, malheureusement, sont un peu les exclus du système scolaire et dont certaines n'arrivent même pas à lire et à écrire. Donc là, c'est un problème très grave, mais on va peut-être pas en parler ce soir. Puis ensuite, on a 500 000 personnes, 500 000 jeunes, 500 000 étudiants, qui vont avoir une formation, mais qui n'est pas considérée par les entreprises comme suffisante pour leurs besoins au quotidien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là, donc qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, qui arrivent sur le marché du travail
23% de chômage.
Avec 23% de chômage et avec une formation qui n'est pas jugée en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc là, au MEDEF, à Croissance Plus, mais les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, eux disent donnez-nous un contrat, donnez-nous un peu plus de flexibilité pour qu'on puisse investir sur ces jeunes-là.
Mais Charles Becbédé,
et leur donner une chance.
Est-ce qu'il y a une
le CPE peut être un moyen de leur donner justement cette chance.
Est-ce qu'il y a une différence vraiment de fond énorme entre un alignement de CDD et un CPE?
Le CPE, c'est avant tout un contrat à durée indéterminée. Donc, premièrement, ça c'est une première grosse différence. Deuxième grosse différence, il est réservé pour les entreprises de plus de 20 salariés et pour les jeunes, donc de moins de 25 ans. Grosse différence également, en cas d'échec, en cas de donc d'inadéquation, au cas où l'entreprise rate une commande ou la concurrence s'intensifie, elle doit se séparer d'un certain nombre de CPE. Les personnes qui sont en CPE ont droit à une indemnité chômage dès le quatrième mois de présence dans la société, ce qui n'est pas le cas d'un CDD, puisqu'il faut désormais 7 mois dans le cadre de la réforme de l'UNEDIC.
Oui, non, mais c'est une description de la situation qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, prenons un exemple, les stagiaires qui ont bougé ces temps-ci, c'est des gens qui sont parfaitement qualifiés, qu'on fait travailler gratuitement dans des entreprises où ils correspondent tout à fait aux qualifications. Donc c'est une forme de précarité qui ne correspond pas du tout à cette réalité du genre les jeunes ne sont pas formés, etc. Bon, et donc le CPE va généraliser cette précarité. Et je pense qu'il n'y a pas de discours plus hypocrite, puisque vous parliez d'hypocrisie, consistant à dire puisque une bonne partie des jeunes sont effectivement précarisés, et ça personne ne peut le nier, on va traiter la question en étendant à tout le monde tous les jeunes de moins de 26 ans, cette précarité. Même ceux qui sont surqualifiés, même ceux qui vont être embauchés dans des grandes entreprises qui font des profits extraordinaires, ils vont être soumis à quelque chose qu'on ne peut pas décemment appeler un CDI. Ça veut dire que pendant 2 ans, on peut les mettre à la porte, se séparer de leur service, sans donner aucun motif, ce qui est contraire à toutes les conventions du BIT, élémentaire du droit du travail.
Pas de justification, en effet, pendant ces 2 ans,
pas de motif,
dit de consolidation, recommandée. Mais une lettre recommandée. Monsieur Becbédé, sur ces 2 années.
Non, mais encore une fois, je reviens. Donc, il y a, issu du système scolaire et universitaire, français, un certain nombre de jeunes qui sont privilégiés et qui dicteront leurs conditions aux employeurs. et ils vont continuer à recevoir 3, 4, 7 embauches
même
par,
les privilégiés
par diplômé.
Font des stages,
et ceux-là, ils feront des CDI. Non, mais bien sûr qu'ils font des stages. Ah, moi aussi, j'ai fait un stage, c'était il n'y a pas si longtemps, et j'en ai fait plusieurs.
Mais
c'était extrêmement intéressant de faire des stages, parce qu'à ce moment-là, on sait mieux ce qu'on veut faire après. Et donc, ces étudiants-là, ils auront autant de CDI qu'aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres qui ne trouvent pas de job, qui ont une formation parfois bac plus 3, bac plus 5, malheureusement en sociologie, en management international, et qui arrivent sur le marché du travail, et on ne leur offre rien du tout parce que ils sont pas, c'est pas exactement ce que recherchent les entreprises, ce type de formation. Donc là, je pense que le CPE leur permet aux entreprises de prendre le risque d'essayer de les former et de leur apprendre un métier, et puis ensuite de transformer ce CPE en CDI.
Alors, je salue Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qui est avec nous en direct, nous vous écoutons, Christian.
Bon, ben, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Oui. Bonjour à tous. Mmh. Voilà, je suis veuf et j'ai élevé mes trois fils qui ont entre 20 et 23 ans. Alors, je voulais vous signaler une chose. Cette révolte contre trois nouveaux emplois, elle me sort par les yeux parce que mon premier fils a commencé par un CDD, durée déterminée, hein, de 6 mois avant d'avoir un CDI. Mon deuxième fils a commencé aussi par un CDD, puis ça n'a pas collé. Il a retrouvé un emploi immédiatement. Là, il est en intérim depuis plus d'un an. Et puis, mon troisième fils avait, dans l'entreprise de son grand frère, trouvé un emploi formation. Eh bien, il a commencé par un emploi en intérim. Alors, je ne comprends pas du tout pourquoi on gueule après ce contrat.
Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. 7 jeunes sur 10 actuellement ont un emploi à travers un CDD.
Et
50% de ces CDD n'excèdent pas un mois. Et puis, l'intérim, et puis sinon, c'est l'intérim. Et l'intérim moyen, c'est 15 jours en France. Ouais. Alors, c'est dramatique.
Mais c'est pas une situation normale non plus. C'est-à-dire, effectivement, on prend une réalité qui est la précarisation et on s'appuie dessus pour dire on va en faire encore plus. C'est un raisonnement qui n'est pas logique. Il faut faire reculer cette précarité. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux qu'un CDD. Quand on est engagé sur un CDD, on va jusqu'à son terme. Quand on est engagé sur un contrat nouvelle embauche ou un CPE, on ne sait pas ce qui va se passer pendant 2 ans. On est dans l'insécurité totale. Et par exemple, au Royaume-Uni, où ils avaient allongé la durée d'essai, la période d'essai à 2 ans, ils sont revenus à 1 an parce que même ils ont bien constaté que ça donnait lieu à des excès, à savoir faire tourner les gens sur les postes constamment et flexibiliser totalement ses effectifs.
Et on évoquera peut-être, les amis, on évoquera peut-être ce qui s'est joué en Espagne avec un contrat unique, donc là qui a mis en place quelque chose d'intéressant de nouveau. Mais je voudrais que nous parlions également avec François Dubé et François Gaudu, qui sont tous les deux au téléphone maintenant. François Dubé, je rappelle que vous êtes enseignant à Bordeaux et sociologue. Est-ce que au-delà du CPE et du CNE qui est en place maintenant depuis cet été, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge vraiment et que le gouvernement veut faire bouger en termes d'assouplissement du Code du travail ?
Bah, ça, il est clair que le gouvernement joue de manière assez radicale l'assouplissement du contrat du travail en postulant au fond que c'est la rigidité de ces contrats qui empêcherait de créer de l'emploi. Alors, je suis sûr que ça n'est pas totalement faux. Mais quand j'entends dire qu'il y a 500 000 jeunes qui trouveraient du travail s'ils étaient correctement formés, j'ai quand même l'impression que l'on a un raisonnement un peu étrange. Parce que si les jeunes ne trouvent pas du travail, c'est fondamentalement parce qu'il n'y a pas de travail.
François Dubé, on est obligé de donner le chiffre du CNE, car d'ailleurs c'est l'un des chiffres sur lesquels M. de Villepin s'appuie, 280 000 emploi autour du CNE.
Oui, c'est un chiffre tiré du chapeau, c'est-à-dire qui est fondé.
C'est un chiffre qui.
Il y a des statistiques du ministère du Travail. Là, c'est des déclarations d'intention plus des sondages. C'est-à-dire, c'est pas un chiffre fiable. Il est vraiment bon. On peut pas s'appuyer là-dessus sérieusement. Bon,
c'est un effet d'annonce. Attendez les uns après les autres, les amis.
Pardonnez-moi. Allez-y. J'ai sous les yeux François Dubé, du Monde qui est paru cet après-midi et dont dans lequel des chercheurs disent que la création la plus optimiste sera de 90 000.
Bon,
façon ce serait 90 000 au maximum d'emplois créés par ce CPE. Et puis je crois qu'il ne faut pas raisonner uniquement en ces termes-là. On ne peut pas dire on a un système de formation qui est déconnecté du monde du travail, et c'est au monde du travail de faire semblant de former ou de former ces jeunes en s'interdisant d'agir sur le système de formation. Et puis la précarité, elle n'est pas que dans le travail. Ce qui peut apparaître là-dedans extrêmement brutal, c'est au fond de dire seul l'assouplissement du contrat de travail peut permettre de s'en sortir, alors que les jeunes ont des problèmes de travail, mais ont aussi des problèmes de logement, ont aussi des problèmes de projet, et se sentent pris, au fond, aujourd'hui, dans une sorte de précarité continue. On leur annonce qu'ils seront obligés de travailler de plus en plus longtemps pour aller dans des systèmes de retraite qui sont de plus en plus incertains. Il y a quand même un problème global aujourd'hui en France, qui est que, grosso modo, la précarité a été transférée sur les jeunes. Et là, on est quand même devant un enjeu qui fait que le CPE, en tant que tel, peut ne pas apparaître comme une catastrophe, mais quand il est sorti comme ça, tout seul, comme une mesure indépendante et qui apparaît comme miraculeuse, il y a quelque chose qui n'est pas véritablement crédible.
Merci François Dubé, restez avec nous. François Gaudu, vous enseignez le droit à l'Université Paris 1 et vous êtes spécialisé dans le droit du travail. Est-ce qu'il y a la matière à instaurer un dialogue qui sera forcément différent entre le salarié et l'employeur ?
En effet, je pense que la situation sera tout à fait différente avec le CPE de ce qu'elle est aujourd'hui. Au fond, c'est le même régime que celui du contrat nouvelle embauche. C'est-à-dire que pendant les deux premières années, d'abord, lorsque l'employeur licencie un salarié, il n'a plus besoin de mentionner un motif dans la lettre de licenciement. D'autre part, le licenciement n'est plus soumis à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse. Donc, d'une certaine façon, on revient à avant 1973. Avant 73, lorsqu'un salarié était licencié et pensait que son employeur avait tort, il fallait qu'il prouve l'abus de droit. Et voilà, c'était assez difficile de prouver l'abus de droit. Il y a certaines limites qui vont demeurer, hein, en particulier la protection des représentants du personnel et l'interdiction de la discrimination. Mais enfin, il y a beaucoup de licenciements qui paraissent aux salariés infondés et qui ne sont évidemment pas discriminatoires. Ça n'est d'ailleurs pas forcément très sain de rabattre les plaintes des salariés sur l'invocation du harcèlement ou de la discrimination, alors que ça n'est pas ça la question. On peut imaginer que le motif économique soit contestable, que la faute soit pas très grave, qu'il y ait mésentente, perte de confiance, etc. Bien, dans tous ces cas, finalement, le salarié n'aura plus vraiment de recours. Donc oui, il y a un vrai changement dans les conditions de la rupture du contrat dans les deux premières années. Je ne suis pas d'accord avec ce que disait un de vos interlocuteurs précédemment, c'est-à-dire que dans un contrat à durée déterminée, on ne peut pas être licencié avant le terme du contrat. Le salarié peut partir s'il trouve un CDI, mais l'employeur ne peut pas licencier.
Alors ma foi, il y a une question qui va certainement vous intéresser les uns et les autres, notamment Monsieur Begbédé et puis vous-même qui êtes juriste. C'est Mohamed que je salue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes vous-même chef d'entreprise.
Oui, je suis chef d'entreprise d'une petite PME dans l'industrie chimique sur Amiens. Et donc ma question était, quel est l'avantage que va avoir les employeurs dans ce nouveau contrat?
Charles Degbédé, plus de souplesse pour virer ou
L'avantage, c'est effectivement la possibilité, donc pour le CCPE, dans le cadre de CCPE, de mettre fin au contrat de façon moins lourde que dans le cadre d'un CDI. Et c'était également l'avantage principal du CNE pour les employeurs. Donc c'était pour les entreprises de moins de 20 salariés, là, et qui permet effectivement, dans les deux ans qui suivent l'établissement du contrat, de mettre fin au contrat sans procédure hyper lourde. Et c'est très important parce que les petites entreprises, lorsqu'elles embauchent quelqu'un, elles prennent un risque énorme, en fait, par rapport à, elles n'ont pas une direction de ressources humaines capable de gérer la complexité du code du travail, et donc le CNE a été fait pour elles. Alors le CPE, maintenant, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés et pour les jeunes, et je pense que ça va dans la bonne direction, même si c'est sans doute bien insuffisant pour les PME de plus de 20 salariés et de moins de 250 salariés qui auraient bien préféré que le CNE leur soit étendu.
Michel Husson, qu'est-ce qu'il ne faut pas tout de même remarquer que ce CPE intègre au moins en tout cas un volet social, puisqu'il y a indemnité en cas de rupture de licenciement, de rupture de bien sûr de travail dès le troisième mois, formation et puis ce fameux accès peut-être à sans doute même le locapass qui devrait permettre, même s'il est très contesté par les organisations actuellement syndicales, l'accession au logement. Est-ce que ça c'est pas un fait nouveau par rapport au CIP de Balladur?
Ça, c'est les petites mesures d'accompagnement pour faire passer le gros. Mais tout repose sur, on voit bien les avantages pour les employeurs, mais tout repose sur l'idée que ça peut créer des emplois. Bon, et c'est ça que je conteste. Hein, et toutes les expériences, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on crée la précarité, toutes les expériences montrent qu'en réalité, ceux qui jouent massivement, et c'est pour ça que les deux experts dans le monde qui sont pourtant très favorables à ce genre de réforme, donne des estimations très très basses sur les emplois créés, c'est que ce qui joue massivement, c'est l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que l'employeur entre embaucher un CDI et embaucher un contrat nouvelle embauche, va choisir le nouvel embauche. Donc on va faire du chiffre sur les nouvelles embauches, mais ça n'implique en rien qu'on va créer un volume d'emplois supérieur. Bon, et pour prendre un exemple, sur cette idée qu'il faut de la précarité pour créer des emplois, a été infirmée par une expérience très concrète en France. Entre 97 et 2001, où on a créé beaucoup d'emplois, la précarité a plutôt reculé. C'est-à-dire que massivement, les nouveaux emplois étaient créés en CDI. Parce qu'il y avait un appel d'air et les salariés pouvaient imposer un certain nombre de choses. Beaucoup de salariés de petites entreprises ont quitté la petite entreprise pour aller dans une grande où ils étaient mieux lotis. Et la proportion d'embauches en CDI était de nouveau majoritaire pendant cette période. Autrement dit, les choses marchent à l'envers. Quand on crée l'emploi, la précarité recule. Et c'est pas de faire monter la précarité qui va créer en soi des emplois.
Est-ce qu'on peut considérer, Charles Begbédé, qu'un jeune chef d'entreprise, comme vous, par exemple, sera plus motivé avec un tel contrat?
Oui, bien sûr.
Mais ce qui compte, c'est les carnets d'embauche, bon, franchement.
Nous, on est une entreprise à Boyo de plus de 50 salariés, donc on n'avait pas droit au CME. Mmh. En revanche, on a droit au CPE.
Au CPE.
Donc, j'espère bien qu'on donnera...
Demain, vous preniez un CPE.
On prendra des CPE, mais on continuera à offrir des CDI, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisqu'il y a un certain nombre de diplômés de grande école qui auront la chance de pouvoir continuer à avoir des CDI. Mais on donnera sa chance à d'autres étudiants qui ne... ont peut-être pas la formation que nous recherchons, mais sur lesquels on est prêt à investir à travers le CPE.
Alors je voudrais peut-être que François Dubé, puisque vous êtes sociologue, là je m'adresse aux sociologues, et plus seulement au débat entre économistes, est-ce qu'il y a quelque chose qui change de toute façon et qui changera dans ces prochaines années, François Dubé, en termes de rapport entre le salarié et l'employeur? Est-ce que la flexibilité, finalement, n'est pas au bout du chemin, comme elle est à Londres, en Espagne aujourd'hui? Que doivent attendre les jeunes de moins de 26 ans comme première expérience?
Écoutez, de toute façon, l'idée que l'on entre dans l'emploi par la flexibilité, sauf si on sort de quelques grandes écoles, est aujourd'hui installée. Je veux dire que la plupart des jeunes le savent et sont très demandeurs de stages, de petits boulots, etc.
Oui, mais là, l'inscrit maintenant là dans la juridiction.
C'est... Je veux dire, le culturellement, le prix est pris. Bon. Et d'ailleurs, il semble que les jeunes ne soient pas totalement hostiles à cette formule, parce qu'ils disent, après tout, c'est déjà comme ça.
La vraie précarité, c'est le chômage.
Je crois qu'évidemment, il y a en dessous, il y a le chômage, et on peut imaginer qu'on a eu au mois d'octobre et de novembre les exclus, et que demain, on aura peut-être les précaires dans la rue. Mais je crois que la question qui se pose n'est pas exactement celle-là. Même si l'on admet aujourd'hui que, au fond, le statut garanti, avis, modèle, fonction publique, qui reste la grande norme et le grand idéal en France, ne pourra plus être tenu parce que l'économie a changé, tout un tas de choses que nous savons tous, ça supposerait évidemment de faire que les individus puissent avoir quand même le sentiment d'entrer dans la vie, d'avoir le minimum de stabilité de projet. Ce qui est gênant là-dedans, ça n'est pas, à mon avis, d'installer au fond, l'idée que le travail ne sera plus le travail d'une vie, mais c'est de faire que la vie elle-même ne sera plus stable.
Ouais.
Et c'est là quand
c'est
là quand même qu'on peut être un peu déçu. Je veux dire qu'on ne peut pas laisser des gens dans l'idée que jusqu'à 25 ans, 26 ans, 30 ans, on n'a pas de projet, on ne peut pas se loger, on ne peut pas s'installer, alors que si le travail devient véritablement flexible, il faut que l'on apprenne à réorganiser les droits sociaux, la vie et les protections autour d'autres critères que celui du travail seulement.
Nous revenons au débat, mais je voudrais que Sandra puisse s'exprimer, que je salue. Bonsoir Sandra, vous êtes avec nous en direct.
Oui, merci.
Allô.
Oui, allô.
Oui.
Oui, donc voilà, je voulais vous poser une question beaucoup plus générale, mais qui relie quand même le propos de la personne qui parlait auparavant. Je m'étonne que pour aucun de ces contrats, c'est une grande litanie, je connais même plus le nom précis de chacun d'entre eux, mais il n'y ait jamais eu d'obligation à la charge de l'employeur relativement à la formation qu'il devait apporter à l'employé. C'est-à-dire que, bien entendu, je parle compte tenu de mon expérience professionnelle, mais comme je le disais à la dame au standard, c'est pas du tout une expérience originale, malheureusement. Mais les jeunes, ils peuvent prendre un contrat, quel que soit le nom, rentrer dans une boîte avec la meilleure volonté du monde et ressortir parfois avec parfois quelques mois après en ne sachant quasiment rien de ce que de ce pourquoi ils sont rentrés dans la dans la société en question. Donc pour l'employeur, c'est vraiment gagnant parce qu'il n'a pas perdu de temps, il n'a pas perdu d'argent, la personne en question, elle a fait le minimum dont lui estimait avoir besoin, mais par contre, vis-à-vis de cette personne, c'est vraiment de l'escroquerie professionnelle parce que c'est encore une façon de dévoyer la valeur du travail qui, à mon sens, n'existe absolument pas dans notre société. Les gens ne se rendent pas compte à quel point un travail c'est important et qu'il faut absolument, quand quelqu'un met un pied dans une société, lui permettre de pouvoir sortir en ayant la sensation très concrète d'avoir appris des choses. Mmh. Et ça, c'est malheureusement très, très inexistant. Donc, je vous rassure, à force de stage, on y arrive toujours. On arrive toujours à un moment donné à se rendre compte qu'on arrive à faire ça, ça et ça. Néanmoins, la moindre des choses, ce serait que dès le début de ce type de contrat, que ce sont tels et tels actes qui vont devoir être entrepris et que de bon matin, il faudra que l'employeur prévoie une personne et un temps minimal pour que l'employé puisse apprendre, comprendre et se poser les questions nécessaires.
Oui, je vous ai laissé vous exprimer parce que c'est vrai que c'est passionnant, parce que c'est l'épanouissement dont vous parlez, Sandra, quand on travaille et qu'on veut recevoir une formation. Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes avec nous et nous vous écoutons.
Oui, écoutez, je voudrais vous faire part de mon expérience, puisque j'ai passé ma vie à essayer de remettre d'aplomb des affaires qui étaient plus ou moins bancales, avec en général assez de succès. Et donc, je sais ce que c'est que de licencier et d'embaucher du personnel. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ces nouveaux contrats, CPE, CDE, CNE, peu m'importe. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que quand un jeune ou moins jeune rentre dans une entreprise, c'est un atout considérable pour lui. Bon, ces nouveaux contrats donnent une facilité à l'employeur qui a pris le risque de prendre un employé dans une activité qui peut, du fait de la conjoncture diminuer, ça lui donne le courage de le faire. Bon, si l'employé n'est pas bon, il sera licencié, et comme il l'aurait été normalement après une période d'essai. Mais il peut se faire que l'employé soit valable, mais que pendant les deux ans, les affaires ne marchent pas dans la direction prévue. Eh bien, à ce moment-là, mettez-vous à la place du patron. Si l'employé s'est révélé bon, le patron ne voudra pas le lâcher. C'est extrêmement difficile pour un patron de trouver de bons employés. Quand un employé a fait ses preuves par son désir de travail, de réussir, son honnêteté, son bon esprit, peu importe ses diplômes, le patron s'en fiche totalement. Ce qui l'intéresse, c'est de voir si cet employé est intéressant dans l'entreprise. Parce que sur une entreprise où vous avez 50 personnes, vous en avez 40 de moyens, et vous en avez une dizaine qui sont bons, et vous en avez deux ou trois qui sont excellents. Quand un patron trouve un jeune ou moins jeune qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, eh bien, il s'adaptera à cet employé et il le gardera.
Merci Jacques. Je voudrais que qu'on prenne Christophe et nous terminerons avec les auditeurs sur ce dossier avec nos invités. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Vous êtes-vous à Saint-Pétersbourg ?
Oui, tout à fait.
Quelle ville sublime. Et on vous écoute.
Non, moi, je réagissais par rapport à la différence entre le contrat première embauche, le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée. Lorsque j'étais en France, une de mes expériences professionnelles ont consisté à être cadre chez Carrefour, où je manageais une équipe. Une des premières choses que l'on nous apprenait pour recruter notre équipe était de privilégier le contrat à durée indéterminée et non pas le CDD. Car le contrat à durée indéterminée demeure, si ça n'a pas trop changé depuis que je suis parti, la forme la plus souple de contrat pour l'employeur pour pouvoir, par exemple sous forme d'objectif quantitatif ou qualitatif, éventuellement en cas d'échec d'un employé s'en débarrasser ou
une séparation,
s'en séparer, pardon.
Une séparation à l'amiable.
Voilà, à l'amiable ou dans les conditions qui étaient prévues dans le contrat de travail initial. C'est-à-dire que les angoisses d'un candidat aujourd'hui, moi je les perçois mal, quoi.
Christophe, merci mille fois. C'est ça aussi, hein, quand même, j'ai envie de dire, Michel Husson, le nerf du dossier. C'est quand même la façon de se séparer d'un employeur, la sécurité finalement aussi. Hein.
Oui, non, mais entendre ces témoignages de chefs d'entreprise, on a l'impression qu'avec le CDI, c'était des emplois de fonctionnaires à vie qu'on pouvait jamais se débarrasser, qu'il n'y avait pas de fluctuation de l'emploi, qu'il n'y avait pas de licenciement, qu'il n'y avait pas de mise à fin de contrat. Bon, c'est un peu le monde à l'envers. Et moi, je voudrais terminer sur deux points, c'est par rapport à l'image que donne la société à la jeunesse et à son avenir, qui est une image de précarisation totale. Et moi, je pense que c'est une insulte faite à la jeunesse. Et la deuxième idée, c'est que tout ça s'inscrit dans une tactique d'encerclement du CDI, c'est-à-dire qu'on multiplie tellement toute une série de contrats qu'on étend progressivement, d'ailleurs ça va très vite entre le CNE et le CPE, qu'on rend la situation tellement confuse qu'on va aligner, c'est ça qui est préparé en ce moment, sa prochaine étape, qu'on veut aligner sur un contrat du travail d'évaluer.
Merci en tout cas à vous tous et en particulier à François Dubé, François Gaudu qui était au téléphone, Michel Husson et Charles Becbédé. Le débat reste ouvert et le poursuivront bien sûr tout à l'heure avec Gilles Le Robien vers 19h15.